Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver en ce mercredi 22 février 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal, suivi d'un commentaire politique, Palestine déclassifiée, Harvard et les sionistes. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de rester avec nous. Commençons par les principaux titres de ce journal. L'Iran impose des sanctions à l'Union européenne et à l'Angleterre. Le ministère des Affaires étrangères convoque la chargée d'affaires britannique à Téhéran. Amir Abdollahian, la restauration par l'Irak de son rôle actif dans la région est une source de satisfaction. Voici les principaux titres que nous allons développer tout de suite dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Mardi, la République islamique d'Iran a annoncé l'imposition de sanctions à des individus et entités européens et britanniques en réponse aux nouvelles sanctions anti-iraniennes des Européens lundi. La liste des sanctions comprend 28 normes de l'Union européenne et 8 de Grande-Bretagne, annonce le ministère iranien des Affaires étrangères dans un communiqué. Téhéran affirme que les individus et les organisations étaient impliqués dans le soutien au terrorisme et l'incitation à la violence contre le peuple iranien. Il les a également accusés d'ingérence dans les affaires intérieures de l'Iran et de diffusion de fausses informations contre le pays. Le communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères considère ces mesures réciproques de contre-mesures approuvées par les autorités compétentes et les mécanismes de contre-sanctions du pays. Il accuse des personnes et entités sanctionnées de soutenir le terrorisme et les groupes terroristes d'inciter et d'encourager les actes terroristes et la violence contre le peuple iranien, de s'ingérer dans les affaires intérieures de la République islamique d'Iran et de promouvoir la violence et les émeutes en Iran. Les services du renseignement iranien ont trouvé les empreintes d'agences d'espionnage américaines et occidentales dans les récentes violentes émeutes au cours desquelles des forces de l'ordre ont été tuées et des biens publics saccagés. L'Iran affirme que certains pays européens ne sont pas en mesure de prêcher aux autres le droit international alors qu'ils ne respectent pas eux-mêmes les normes internationales et qu'ils s'arrangent pour les contourner et violer ainsi les droits de l'homme. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré que ces pays occidentaux avaient emprisonné un grand nombre de ressortissants iraniens sur des accusations sans fondement et sans inculpation. Le porte-parole a déclaré que ces pays ont remplacé les conventions internationales par leurs propres décisions politiques et non juridiques. Il a dit qu'ils n'avaient aucun respect pour les prisonniers d'autres pays dans leurs prisons. Le responsable a déclaré que Téhéran respectait ses obligations internationales et qu'il s'agissait sur la base d'engagements nationaux et internationaux. Lundi, l'Union européenne a imposé des sanctions à plusieurs autorités judiciaires iraniennes sous prétexte des récentes émeutes dans le pays. L'Iran a convoqué la chargée d'affaires britannique pour protester contre ce qu'il a qualifié d'accusations infondées portées contre Téhéran. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré à la chargée d'affaires britannique en poste à Téhéran que les accusations faisaient partie d'une politique d'iranophobie exhortant Londres à mettre fin à son approche hostile. Un pays qui, contrairement aux lois internationales, pratique la discrimination et mène les atrocités les plus graves à l'endroit des immigrés et des musulmans et transfère de force des réfugiés au Rwanda n'est pas bien placé pour s'exprimer sur les droits de l'homme, a dénoncé un responsable du ministère des Affaires étrangères à l'adresse de la chargée d'affaires britannique. Et de poursuivre, au cours des 4 dernières décennies, la République islamique d'Iran a montré qu'elle ne céderait pas aux pressions étrangères et elle adoptera bientôt une contre-mesure face aux sanctions du régime britannique. Le gouvernement britannique a accusé l'Iran de constituer une menace pour les journalistes sur le sol britannique, a convoqué l'envoyé iranien lundi dernier. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que Téhéran respecte l'intégrité territoriale de l'Irak et soutient la paix, la stabilité dans le pays arabe. Le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que le peuple iranien et irakien avaient beaucoup en commun, ajoutant qu'ils formaient une seule nation dans deux zones géographiques indépendantes. Aujourd'hui, le rôle régional de l'Irak est plus remarquable que jamais, a-t-il déclaré aux journalistes à son arrivée à Bagdad. Ma présence en Irak coïncide avec la 34e conférence de l'Union interparlementaire arabe dans ce pays qui montre que l'Irak a retrouvé son statut original, a-t-il réaffirmé. Des sources d'information lèvent un autre coin du voile sur plus d'atrocités israéliennes dans les territoires occupés. Les forces du régime d'Israël ont blessé au moins 20 Palestiniens à Naplouse. Il y a eu des affrontements entre les troupes de l'armée israélienne et les forces de résistance palestinienne dans la ville de Naplouse, ont annoncé des sources médiatiques. Les blessés ont été transportés à l'hôpital. 4 d'entre eux ont été grièvement blessés. La semaine dernière, les forces israéliennes ont tué un Palestinien et ont blessé 6 autres lors d'un raid tôt dans la matinée à Naplouse. La répression meurtrière d'Israël contre les Palestiniens et leur détention injustifiée et illégale se poursuivent sans relâche. Des centaines de Palestiniens languissent dans les prisons israéliennes depuis des années sans inculpation ni procès. Fin de ce journal. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Palestine déclassifiée, Harvard et les sionistes. L'université de Harvard aux États-Unis a été mêlée à une controverse après que l'administration a annulé la nomination de l'ancien directeur exécutif de Human Rights Watch, Ken Rhodes, en tant que membre de la Harvard Kennedy School. Human Rights Watch a rendu d'importants services à l'impérialisme américain, fournissant régulièrement des rapports accablants sur les ennemis officiels de l'Empire, rapports basés souvent sur des sources douteuses. Cependant, la seule ligne rouge que Human Rights Watch et Ken Rhodes ont franchie était la ligne palestinienne. On a dit que Rhodes s'était vu refuser sa nomination en raison de son parti pris anti-israélien. En 2021, Human Rights Watch s'est joint à d'autres organisations libérales pour condamner l'entité sioniste comme pratiquant l'apartheid en Cisjordanie à Gaza illégalement occupée. Or, cette instance de droits de l'homme tardait beaucoup à reconnaître la souffrance de notre peuple. La décision d'annuler la nomination de Ken Rhodes est apparemment revenue à Doug Elmendorf, le doyen de la faculté de la Harvard Kennedy School. Elmendorf est également chercheur invité à la Brookings Institution. La Brookings Institution est financée par Israel Institute, l'armée américaine et des sociétés d'armement comme Lockheed Martin, Northrop Grumman et Raytheon. Le Center for Middle East Policy de la Brookings Institution a été créé par le principal bailleur de fonds militaire israélien, Hayam Saban. Parmi les boursiers figuraient l'ancien chef du Shin Bet, Avi Dikter, et le chef de la recherche pour le renseignement militaire israélien, Yosef Cooper Wasser. Finalement, suite au tollé général suscité par Ken Rhodes, Harvard a été vu revenir sur sa décision de l'annuler. Doug Elementfort écrit « Dans le cas de M. Roth, je crois maintenant que j'ai commis une erreur en décidant de ne pas le nommer membre de notre Care Center for Human Rights. Je suis désolé que la décision ait, par inadvertance, jeté la doute sur mission de l'école et notre engagement à ouvrir le débat d'une manière que je n'avais pas prévue et que je ne crois pas être vraie. » Ken Rhodes est loin d'être la première personne à être exclue de Harvard sur cette base. En fait, l'universitaire américain Cornel West affirme qu'il s'est vu refuser un poste à Harvard en 2021 en raison des donateurs fortement pro-israéliens de la prestigieuse université. Il est également rapporté que le biologiste Robert Rivers a été désinvité de donner une conférence à Harvard en 2007 à la suite d'une intervention d'un important donateur de l'université. Ce donateur n'était autre que le pédophile condamné Jeffrey Epstein qui, selon des proches, aurait rassemblé du compromat pour les services de renseignement israéliens. Epstein ainsi que le lobbyiste israélien Alan Dershowitz se sont opposés à la visite de Rivers en raison de ses précédentes critiques d'Israël. La liberté d'expression et même la liberté de penser sont menacées à l'université de Harvard.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de cette émission, le débat de Presse TV français. En ce lundi, nous allons évoquer l'expulsion de la délégation israélienne lors du sommet d'ouverture de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba en Éthiopie le 18 février dernier. En effet, c'est plus qu'une expulsion, c'est un acte de haine de la part de l'Union africaine des pays africains de la présence israélienne et il semblerait que le comeback israélien est désormais annulé au sein de l'Union africaine, mais aussi au sein du continent africain, même si le lobby sioniste essaie de garder ses pions partout dans le monde, à savoir sur le continent africain. Nous allons évoquer ces questions avec nos deux invités, mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage préparé à ce sujet par mes collègues. On revient tout de suite après.
Les agents de sécurité ont expulsé la délégation du régime israélien venue de Tel Aviv pour participer au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, a fait savoir samedi 18 février l'agence de presse palestinienne Maan. La délégation israélienne est entrée secrètement dans la salle où se tenait samedi la cérémonie d'ouverture du sommet de l'Union africaine en utilisant de fausses identités. La délégation israélienne, qui prétendait être en possession d'invitations pour assister au sommet, a été expulsée de la salle puisque la commission de l'Union africaine avait au préalable annulé l'invitation de la délégation du régime sioniste. À l'issue de son rapport, l'agence de presse palestinienne Maan a souligné que l'expulsion de la délégation israélienne a prouvé que le régime n'a pas réussi à obtenir le statut d'observateur à l'Union africaine, bien au contraire, puisque le processus d'expulsion de la délégation israélienne a prouvé que le régime d'occupation était rejeté par l'Union africaine. Il est à noter que lors du 35e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en février 2022, l'UE a reporté la décision unilatérale prise en juin 2021 par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, d'accorder le statut d'observateur au régime israélien. Après la forte opposition des hauts responsables de l'Algérie, de l'Afrique du Sud et de l'Égypte en 2022, le débat au sommet annuel de l'Union africaine sur l'adhésion d'Israël à cette organisation en tant qu'observateur a été suspendu. À la place, il a été décidé de créer un comité composé de 7 pays pour étudier la question. Ce comité comprendrait l'Afrique du Sud et l'Algérie, mais aussi le Rwanda, la République démocratique du Congo, ainsi que le Cameroun et le Nigeria. L'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, la Libye et la Mauritanie se sont opposés en août dernier à l'accord du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, concernant l'adhésion du régime sioniste à cette union. En décembre 2022, la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération a considéré l'adhésion du régime d'Israël à l'Union africaine UA comme une offense au texte et à l'esprit de la charte de cette instance. Ce régime n'a donc aucune place dans l'UA. Naledi Pandor, la ministre des Relations internationales et de la coopération d'Afrique du Sud, a déclaré dans une interview accordée à Palestine TV, nous sommes témoins d'une solidarité la plus forte avec les combats du peuple palestinien en Afrique du Sud et nous sommes très engagés envers la cause palestinienne. Cette solidarité avec la nation palestinienne n'est pas seulement limitée à l'Afrique du Sud, mais elle concerne tout le continent africain.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Je vous présente nos deux invités. Il s'agit de Jacob Cohen, écrivain et analyste politique, également Luc Michel, géopoliticien. Je vous dis bonjour messieurs et merci d'avoir accepté notre invitation. Jacob Cohen, si vous voulez bien, on commence avec vous. J'aimerais avoir votre point de vue dans un premier temps, votre analyse générale de ce qui s'est passé au sein du sommet de l'UA, cette expulsion. On sait bien qu'Israël avait déposé sa candidature comme membre observateur en fait à l'Union africaine il y a près d'un an, une décision qui avait été en fait qui avait suscité l'opposition de plusieurs pays dont l'Algérie, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Donc comment interprétez-vous cette expulsion dans la conjoncture actuelle?
Oui, bonjour, bonjour à vous, bonjour à monsieur Michel. En fait, c'est vraiment un recul terrible, une déception terrible pour Israël. Parce que depuis plusieurs années, le régime sioniste a beaucoup tablé sur l'Afrique pour rétablir une dimension diplomatique, pour renverser le vote de l'ONU, de l'Assemblée générale. Donc il a entrepris diverses démarches, soit économiques, soit sécuritaires. Et en fait, par exemple, sécuritaire en faisant pression sur certains pays, en divisant le Soudan, par exemple. Ça, c'était une entreprise sioniste. Exactement. Le Tchad, vous savez, c'est un ministre tchadien qui a donné une espèce, en catimini, une espèce d'autorisation à Israël d'assister en tant qu'observateur. Or, le Tchad est quasiment la chasse gardée d'Israël et de la France en Afrique. Je rappelle juste qu'il y a quelques semaines, le ministre des Affaires étrangères tchadien est arrivé à Tel Aviv et qu'il a reçu à l'aéroport le chef du Mossad, ce qu'il ne fait jamais. Donc ça montre à quel point Israël compte beaucoup sur l'influence sécuritaire ou même la menace sécuritaire qu'il peut exercer, et notamment aussi en Ouganda. Et donc finalement, tous ces investissements ont été réduits à néant parce que c'est un revers diplomatique majeur aujourd'hui.
Merci pour vos explications, Jacob Cohen. Je vous adresse la parole, Luc Michel. À votre avis, est-ce que, comme le dit Jacob Cohen, c'est une grosse déception? Est-ce que c'est la défaite de tous les plans que Israël avait envisagé à mener en Afrique?
Bonjour à vous, bonjour à Monsieur Cohen et bonjour à nos téléspectateurs. C'est une défaite majeure de l'offensive diplomatique israélienne. Les Israéliens essayent de s'ingérer en Afrique depuis les années 1960. Et sa particularité a des objectifs du gouvernement de Netanyahou. Mais ça va beaucoup plus loin qu'une défaite sur la question palestinienne. En effet, on voit que le monde nouveau multipolaire, eh bien, dans ce monde, Israël est un perdant. Et également, on voit que l'Afrique est en train de s'éloigner de l'emprise occidentale, comme vient de le montrer la question israélienne. C'est donc quelque chose à suivre. Et l'ensemble de ce qui se fait à l'intérieur de cette réunion de l'Union africaine montre que les Occidentaux sont en pleine de vitesse là-bas. C'est le résultat de l'offensive spéciale ukrainienne en Ukraine.
Et Luc Michel, nous voyons que la colonisation, le néocolonialisme est en train de tomber en fait dans son propre piège. En Afrique, on voit l'expulsion de Barkhane, par exemple du Mali, du Burkina Faso, les nouvelles alliances qui se forment entre le Mali, le Burkina, la Guinée. Cette expulsion, est-ce qu'on pourrait dire que c'est en quelque sorte la fin de cette néocolonisation menée par l'axe US-Israël-OTAN?
Écoutez, le colonialisme dans ses formes multiples sionisme. Israël, c'est une colonie occidentale sur la terre africaine. C'est donc évidemment tout le néocolonialisme français, anglais, britannique, belge, américain et israélien qui sont frappés. Les Africains, en particulier les Sud-Africains, se sont souvenus des rapports entretenus par le régime de l'apartheid avec les Israéliens, en particulier le Mossad. Et évidemment, ils n'ont pas accepté ce qui était une agression du peuple sud-africain. Hier, les Israéliens participaient à l'assaut de l'apartheid contre les Sud-Africains. C'est cela qu'on leur rappelle aujourd'hui.
Et Jacob Cohen, vous, à votre avis, est-ce qu'on pourrait dire que c'est la fin de cette néocolonisation, à savoir ce qui se passe aussi au Sahel, également au Maghreb, avec l'Algérie, il y a des tensions avec la France, le Maroc également, et là, d'une autre part, ce qui vient de se passer au sein de l'Union africaine, est-ce que c'est un signe de la fin, tout simplement, de la néocolonisation?
Disons que c'est un signe d'une lente et profonde agonie du colonialisme. C'est-à-dire que l'Amérique, avec la France, etc., ils ne vont pas lâcher le morceau aussi aisément. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, enfin, je ne me souviens pas de la date exacte, mais il y a eu une réunion entre l'Union européenne et l'Afrique pour tenter de redresser la situation et soi-disant d'établir de nouveaux rapports, etc., de paraître abandonner le colonialisme, les relations néocoloniales, et de voir, devant le succès de la Chine et de la Russie, d'offrir quelque chose d'autre. Donc l'Occident ne va pas lâcher le morceau aussi facilement, Israël non plus ne va pas lâcher, donc il va y avoir, disons, une confrontation très très dure qui pourrait prendre aussi, ce qui se passe par exemple en Ukraine, ça joue aussi, entre la France et Israël. Il y a aussi des dissensions sur la Syrie. Par exemple, la Russie a critiqué énergiquement les dernières attaques d'Israël sur la Syrie. Donc, il y a quand même tout un ensemble qui est en train de s'amalgamer. La division entre le camp des BRICS, disons, pour parler de manière générale, et l'Occident, cette confrontation est en train de s'étendre et de s'approfondir. Mais l'avantage est... Et pour les BRICS, de manière générale, pour résumer, en Afrique, l'avantage est à la Russie, à la Chine, à la Turquie, etc. Tous des pays qui contestent le suprémacisme occidental.
Justement, on parle en fait de cette contestation des pays africains, de cette colonisation, de ce suprématisme américain, européen. Mais à votre avis, qu'est-ce qui a mené les pays africains à protester contre cette colonisation, à contester ces plans mis en œuvre par l'Europe, l'Occident, les États-Unis et Israël dans leur continent? Et qu'est-ce qui les a poussés à annoncer aussi clairement en fait leur opposition à cette présence?
Je crois que le Mali a constitué un tournant. Mmh. C'est-à-dire, par exemple, au Burkina Faso,
oui,
ils ont réussi à éliminer Sankara. Au Tchad, ils réussissent à éliminer les oppositions. Donc, en fait, les Sénégal, la Côte d'Ivoire, enfin, tous ces pays qui tiennent grâce aux francs, CFA. Et donc, à mon avis, le premier acte de vraie résistance, enfin, et qui a eu du succès, c'est l'expulsion, ce qui aurait été quasiment il y a 2 ans presque inimaginable,
oui,
l'expulsion de la France, des forces françaises, imitées en cela déjà par le Niger, et une union des peuples qui s'unissent pour rejeter. Il y a un rejet terrible, mais cette fois, ce rejet s'exprime, se manifeste et prend des accents concrets, comme l'expulsion des troupes françaises.
Justement, ce que a commencé en fait le Mali, comme vous le dites, il y a 2 ans, peut-être c'était inimaginable que la force Barkhane ou la France soit expulsée aussi bien du Mali qu'au Burkina Faso, que ces deux pays choisissent leurs partenaires, à savoir la Russie, l'Algérie, les pays de l'axe de l'Est. À votre avis, est-ce que ce qu'a commencé le Mali et le Burkina Faso, qui a en fait emboîté le pas au Mali en quelque sorte, pourrait se propager à travers toute l'Afrique, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, Centrafrique? La Centrafrique aussi a fait presque la même chose, toi, Dera, avec la France.
À mon avis, c'est la tendance. Pardon, c'est pour M. Michel ou pour moi?
C'est pour vous, Jacob Cohen.
Pardon.
Oui.
Non, la tendance est là. C'est-à-dire, vous savez, le rejet de l'Occident, mais il est profond en Afrique, il était profond depuis des décennies. Mm-hmm. Mais seulement, le problème, c'est que la France-Afrique, vous savez, on parlait de la France-Afrique depuis 20-30 ans. C'est quoi la France-Afrique? C'est-à-dire ces liens incestueux entre le pouvoir français et des dirigeants corrompus, pourris, africains, maintenus grâce aux services de renseignement, à l'armée, à l'économie française. Donc, on le savait tout ça. Cette fois-ci, on a brisé le carcan, on a brisé on a réussi à se libérer. Enfin, c'est ça la différence. Et donc, à mon avis, ça ne peut aller que de l'avant. C'est une dynamique qui ne peut aller que de l'avant parce que tous les peuples africains ressentent d'une façon ou d'une autre la même chose. Et donc, moi, je suis sûr qu'en Côte d'Ivoire, Sénégal, le Tchad, ce sont des pays qui restent accrochés à la France. Pour les raisons que j'ai citées, ça veut dire l'économie, la corruption, etc., ou même la menace militaire. Mais on sait que ces peuples-là, si on leur donnait la possibilité de s'exprimer, ils renverraient la France chez elles, et peut-être qu'il y aura... Il ne faut pas oublier quand même que le Mali, c'est un coup d'État. Donc, on doit surveiller assez attentivement, comme le lait sur le feu, tous les mouvements des militaires, surtout les jeunes officiers, qui doivent voir avec envie leurs frères d'armes dans ces pays se libérer de la puissance coloniale. Et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise à peu près pareille.
Merci pour vos explications. Luc Michel, vous, à votre avis, cette opposition du peuple africain, cette expulsion de Barkhane du Mali et après du Burkina Faso, le désaccord entre le Mali, le Burkina, la France, l'expulsion des forces françaises, est-ce qu'il pourrait se propager à travers toute l'Afrique, dans les autres pays africains, comme l'a cité Jacob Cohen, la Côte d'Ivoire, le Tchad peut-être, qui reste toujours en quelque sorte attaché à cet acte? Je suis sautant pour plusieurs raisons.
Bien entendu, les Occidentaux ont perdu la guerre en Afrique, en particulier la guerre médiatique. Vous savez qu'il y a en ce moment une grande campagne de presse internationale contre moi-même et mes réseaux pro-russes. Ce qu'on me reproche principalement, c'est d'avoir chassé les Français du Sahel. C'est ainsi qu'ils l'expriment, évidemment. Quand je dis « nous », ce sont les réseaux pro-russes et les pan-africanistes alliés ensemble dans un mouvement de libération. Les Français et derrière eux, les Occidentaux ont fait une erreur fondamentale. Ils croient que leur désaveu en Afrique est le résultat de la propagande russe et de l'action que j'ai mis. En fait, c'est une vague de fond qui s'en sert tous les peuples sud-africains, tous les peuples africains. C'est fini pour la France. Le temps du précarisme français, le temps du colonialisme français, c'est terminé en Afrique. La France a perdu et elle va entraîner dans sa chute des Occidentaux. Les Américains, les Allemands, les Belges, les Espagnols, etc.
Et à votre avis, Luc Michel, comment sera l'ère post-colonisation en Afrique? Quelles seront les nouvelles relations, les nouvelles coalitions qui pourront se former au sein de ce continent?
Et tout simplement, les gouvernements africains veulent et vont choisir leurs alliances. Ce n'est pas à Bruxelles ou à Washington de décider que, par exemple, on n'a pas de relation avec Moscou, Pékin ou Téhéran. Ce n'est pas aux Occidentaux de décider pour les Africains. Ce qui est en œuvre, c'est un mouvement souverainiste. Les présidents sud-africains, comme Touadéra, en Centrafrique, ou bien que Nemamba Sonko, en Guinée équatoriale, ils disent qu'il y a encore une place économique pour la France, mais que la France ne décidera plus pour les Africains. C'est cela qui est un changement de paradigme fondamental avec l'ère occidentale qui a prévalu entre 2010 et 2016.
Et Jacob Cohen, pour vous, comment se dessine l'ère post-colonisation en Afrique? Quelles seront les alliances, les coalitions à former?
Bon, certainement un alignement ou une coopération, appelons ça comme on veut, sur des pays, sur le grand pays qui résiste étonnamment, ça veut dire l'Occident qui n'en revient pas, la Russie qui résiste vaillamment aux sanctions économiques, à la pression militaire. Et c'est pour ça d'ailleurs, vous savez, les diplomates de l'Union européenne se disent « catastrophés », entre guillemets bien sûr, j'utilise leur terme, « catastrophés » par l'appui des populations africaines à la Russie. Ils ne comprennent pas. Et donc, ils font semblant de ne pas comprendre. Parce qu'en fait, c'est pour eux le symbole de la libération. Ça veut dire que la Russie a ouvert la voie qu'on peut se libérer de la pression américaine, qu'on peut lui résister. Et quand on a un allié comme la Russie, la Chine, je crois que les pays africains peuvent se sentir assez forts pour réaliser cette libération.
Merci Jacob Cohen. Luc Michel, nous avons 2-3 minutes devant nous. Peut-être le mot de la fin, sinon on pourrait aussi poser une dernière question à Jacob Cohen. Une conclusion de ce qui s'est passé au sein de l'Union africaine, mais aussi de cette nouvelle ère et de ce nouveau chapitre qui s'ouvre en Afrique.
Oui, les Occidentaux menés par la France ont commis une erreur stratégique fondamentale. Ils croient à leur propre propagande. Ils sont persuadés que le sentiment anti-occidental et anti-France relève d'opérations de désinformation, comme ils disent, de la régie, alors qu'en réalité, c'est une vague de fond. Vous savez que je suis souvent sur des plateaux africains. On assiste par la jeune génération à une véritable haine de la France et de l'Occident. Ce n'est plus la détestation de la France-Afrique, comme il y a quelques années, mais une détestation même de tout ce qui est français et occidental. C'est cela que Macron ou Biden n'ont pas compris. Le temps de l'Occident en Afrique, il est passé.
Et Jacob Cohen, le mot de la fin peut-être à vous, on a près d'une minute devant nous.
Probablement en défaveur du régime sioniste, c'est la découverte, il y a quelques jours seulement, d'un organisme, d'une institution financée, liée au service secret israélien, qui réussit à manipuler les opinions africaines pour des élections, etc. Et je crois que ça, bon, ça a fait pas mal de bruit, et notamment sur le Kenya et tout. Et à mon avis, ça a dû aussi montrer la face sombre et complotiste du régime sioniste, et qui a dû jouer pas mal ces derniers jours en Afrique.
Exactement. Merci infiniment, Jacob Cohen, analyste politique et écrivain. Luc Michel, géopoliticien, les deux étaient avec nous. Nous avons évoqué l'expulsion de la délégation israélienne qui s'était rendue au sommet d'ouverture de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Mais surtout, cette haine et ce sentiment anti-occupation, anti-français, anti-américain, anti-israélien des Africains, et cette tendance à se détacher et à devenir indépendant en ce qui concerne dans les secteurs différents, économiques, politiques, etc. Voilà, c'était cette émission. Vous pourriez également revoir toutes nos émissions et informations sur notre site french.presstv.ir. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
En raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran, est très visité. Riz, céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran. Le Mazandaran, très présent dans la mythologie et la littérature iranienne, et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire. Et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushich. Des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazandaran l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazandaran, appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature. Très chers amis auditeurs, bienvenue au programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Un groupe de responsables gouvernementaux, de représentants, d'ambassadeurs de pays islamiques et de participants à la compétition internationale du Saint-Coran ont été reçus en audience par le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Ali Khamenei. À l'occasion de la grande fête de Mabas, commencement de la mission du prophète de l'islam, un groupe de responsables du pays, de représentants et d'ambassadeurs de pays islamiques en poste à Téhéran, et des gens de différentes couches de la société, ainsi que des invités participant à la compétition internationale du Saint-Coran, ont été reçus en audience par le leader de la révolution islamique, ce samedi 18 février. Je tiens à féliciter tous les chercheurs de vérité et tous les musulmans du monde à l'occasion de la fête de Mabas, car si l'appel du Bissat, mission prophétique, atteint le cœur des chercheurs de vérité du monde, ils seront certainement attirés par cet appel, a souligné le leader de la révolution islamique. Si les gouvernements islamiques étaient restés fermes sur la question de la Palestine dès le premier jour, et s'ils avaient résisté, la situation dans la région de l'Asie de l'Ouest aurait certainement été différente et l'Oumma islamique aurait été plus forte et plus unie aujourd'hui. L'Ayatollah Khamenei a réitéré les positions claires et fermes de la République islamique en faveur des Palestiniens opprimés, affirmant que l'Iran n'a aucune réserve à soutenir et à défendre ouvertement la nation palestinienne. Le leader de la révolution islamique a également exprimé sa tristesse face aux récents tremblements de terre en Turquie et en Syrie qui ont fait de nombreuses victimes, affirmant que tous les musulmans devraient partager leur douleur et leur souffrance. L'ambassadeur de Chine à Téhéran a salué la récente visite officielle du président iranien Ebrahim Raisi à Pékin, la considérant comme un facteur qui propulsera la coopération stratégique entre les deux États à un niveau supérieur. L'ambassadeur Chang Hua a fait cette remarque dans une lettre spéciale envoyée à l'IRNA jeudi 16 février. Je suis sûr que cette visite portera efficacement le partenariat stratégique global entre la Chine et l'Iran à un niveau supérieur et ouvrira un nouveau chapitre dans nos relations bilatérales. À la tête d'une délégation politico-économique de haut rang, le président iranien Ebrahim Raisi a effectué une visite officielle en Chine du 14 au 16 février. Il a eu une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping, en plus d'assister à plusieurs autres réunions visant à renforcer les relations bilatérales. Les liens stratégiques étroits expliquent le choix historique de l'Iran et de la Chine en tant que deux anciennes civilisations de l'Asie de l'Est et de l'Ouest, a déclaré le diplomate chinois. En tant que deux pays indépendants, l'Iran et la Chine développent leurs relations sur la base d'un esprit de respect mutuel. L'Organisation iranienne des industries de l'aviation a annoncé son intention de dévoiler une version sans pilote de l'avion de chasse furtif monoplace Raher de fabrication locale au cours de la prochaine année du calendrier persan qui commence le 21 mars 2023. S'exprimant lors d'une émission télévisée ce samedi 18 février, le directeur général de l'IAIO, l'Organisation iranienne des industries de l'aviation, le général de brigade Afshin Khajifard, a déclaré que l'avion avait été fabriqué à l'IAIO et que le projet avait été évoqué pour la première fois dans les médias il y a 10 ans. Le projet Raher atteint sa pleine maturité en termes de technologie, mais nous produisons des produits plus diversifiés. Cela signifie que d'ici le milieu de l'année prochaine, vous verrez de nouvelles versions de cet avion, y compris la version sans pilote qui seront livrées aux forces armées, a-t-il précisé. Les experts et techniciens militaires iraniens ont ces dernières années fait des progrès substantiels dans la fabrication d'une large gamme d'équipements indigènes, rendant les forces armées autosuffisantes dans le secteur de l'armement. Les responsables iraniens ont averti à plusieurs reprises que le pays n'hésiterait pas à renforcer ses capacités militaires entièrement destinées à la défense. Le ministère des Affaires étrangères, Faisal Merdad, a fermement condamné une frappe aérienne israélienne contre Damas qui a tué au moins 5 civils, appelant à une action internationale urgente pour arrêter l'agression du régime israélien. L'attaque au missile contre Damas est considérée comme un crime contre l'humanité, surtout dans une situation où la Syrie est en prise avec une catastrophe après le séisme dévastateur, a déclaré dimanche 19 février le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Mirdad lors d'une réunion avec les ambassades et les hauts diplomates étrangers. La poursuite de ces attaques brutales et de ces crimes contre les peuples palestiniens et syriens constitue une menace explicite pour la paix et la sécurité dans la région et nécessite une action internationale urgente pour mettre fin aux actions agressives israéliennes, a dit le ministre syrien. Les secrétariats des Nations Unies et du Conseil de sécurité devraient condamner les crimes israéliens, prendre les mesures nécessaires pour tenir les Israéliens pour responsables, punir les auteurs des attaques et faire pression pour lever les sanctions unilatérales contre la Syrie, a déclaré Mirdad, soulignant que la frappe israélienne coïncidait également avec les attaques menées par Daesh qui ont coûté la vie à des dizaines de civils innocents dans la province de Homs. La déclaration finale du 36e sommet africain de l'Union africaine n'est pas passée inaperçue de la résistance palestinienne. Le mouvement de résistance islamique de la Palestine, Hamas, a salué la déclaration de clôture de l'Union africaine. Le Hamas a demandé aux Nations Unies et à la communauté internationale de ne pas passer à côté des crimes du régime occupant israélien et des cas multiples d'agressions contre les territoires palestiniens et de profanation des valeurs sacrées des Palestiniens, sans oublier la violation constante par Israël de leurs droits les plus élémentaires. Le Hamas appelle également la communauté internationale et l'ONU à soutenir la lutte des Palestiniens jusqu'à ce qu'ils parviennent à restaurer leurs droits légitimes, consistant entre autres à créer un État palestinien indépendant avec la noble Rots pour capitale. Suite à l'expulsion humiliante de la délégation israélienne du sommet de l'Union africaine qui a provoqué sans surprise la colère des responsables de Tel Aviv, le porte-parole du Hamas, Jihad Taha, a tenu à saluer tous les efforts qui ont empêché la présence de la délégation israélienne à cet événement. Ce qui, selon le porte-parole du Hamas, correspond parfaitement aux valeurs de principe de l'Union africaine. Le leader du mouvement de la résistance yéménite, Ansarallah, a réitéré que les groupes terroristes Takfiri ont été créés par les États-Unis et leurs alliés. Les groupes terroristes ont été créés par les Occidentaux, dont les États-Unis et leur allié le plus proche, le régime sioniste. C'est ce qu'a réaffirmé le leader d'Ansarallah, Abdul Malik Aloussi, lors d'un discours prononcé vendredi 17 février. Les ennemis essaient d'induire en erreur les nations et de les éloigner de la voie du progrès en déclenchant des crises politiques, a-t-il dénoncé. Abdelmalik Aloussi estime que les États-Unis utilisent la guerre et la sédition dans d'autres pays pour faire monter le chiffre d'affaires des fabricants d'armes américains. À titre d'exemple, il a souligné la vente du phosphore blanc et des bombes à fragmentation à leurs mandataires dans la région, à savoir le régime sioniste et l'Arabie saoudite, qui commettent des génocides en Palestine et au Yémen. Le leader d'Ansarallah a conseillé aux pays de la région d'éviter de tomber dans le piège des ennemis et de ne pas leur permettre de profiter des différends internes. 80% des complots des ennemis qui s'entourdissent contre nous sont produits par l'exploitation des différends internes, a-t-il déploré, tout en avertissant que les Américains imposent leurs mercenaires à d'autres nations qu'au moyen de leur porter des coups durs. Les ennemis cherchent à mener des opérations de sabotage parmi les nations en infiltrant leurs mercenaires dans divers postes des institutions en charge de la gestion des affaires économiques des pays, a précisé le leader d'Ansarallah. Le plus grand problème dont souffrent nos nations, ce sont les personnes qui sont soumises aux États-Unis, a-t-il regretté. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, au revoir et passez une très bonne semaine.
N'hésitez pas à suivre nos émissions sur notre site http://parstoday.com/fr. Pars Today est active essentiellement sur la toile et les réseaux sociaux, mais il diffuse son contenu en ondes courtes ou encore via des applications mobiles. Les toutes dernières évolutions politiques au Moyen-Orient, le rôle axial qui joue l'Iran en qualité d'une puissance régionale et pays à la fois sûr et prospère sont largement traités à travers les articles et les émissions présentes sur le site Pars Today, ce qui en amplifie l'importance dans la sphère médiatique régionale. Le service français de Pars Today utilise divers médias pour présenter ses productions politiques, culturelles et religieuses. Son objectif n'est que de permettre aux internautes de voir plus clair dans un monde où les médias mainstream manipulent l'opinion. Les locuteurs français pourront suivre l'actualité iranienne, moyen-orientale et africaine et francophone sur Pars Today à l'adresse suivante http://parstoday.com/fr.
Thank you.